Chapitre 13. La vente de l'hôtel du Florent, la construction de plusieurs chalets nouveaux, le détail des procès pendants, la mise en train des travaux du chemin de fer, la récente ouverture du grand hôtel, où chaque jour les charretiers de Serviez amenaient quelques étrangers élégants. Voilà les nouvelles qu'apprirent les vieux habitués de Valanches en arrivant l'un après l'autre pendant les beaux jours de juin. Jamais il n'y en avait eu tant à la fois. Suspendus ou ralentis pendant un temps, les événements se précipitaient tout à coup, en sorte qu'on distinguait les effets des causes multiples qui, depuis plusieurs années, travaillaient à transformer la vallée. Le nouveau village, jusqu'alors caché sous les échafaudages, encombré de tas de pierres, de poutres et de mortiers, pointait maintenant et chassait l'ancien, comme un frais bourgeon chasse une pousse morte. Il apparaissait moderne, gai, cossu, luisant, solide, avec les murs blancs de ses maisons neuves, leurs volets verts, les tuiles régulières de leurs toits, des bouts de trottoir devant leurs portes. Plus trace de l'incendie. Sur le terrain où les décombres avaient longtemps stationné, se dressait le grand hôtel, orgueilleux de ses 4 étages, de ses fenêtres serrées, de son perron, de sa marquise, de sa belle enseigne, de son balcon en fer, tandis que sur le derrière poussaient les arbres de ses futurs bosquets, de minuscules sapins, des marronniers en diminutif, des commencements d'érables et de platanes, toute une petite pépinière qui, dans le paysage à grandes lignes, semblait des joujoux de Nuremberg déposés le long des allées bien ratissées pour des poupées à prétention. Les vieux chalets de bois, qui subsistaient encore autour des bâtisses neuves, avaient l'air de vieillards décrépits qui tremblotent au milieu d'un essaim folâtre de jeunes gens, où ils se sentent gênés, ne demandant qu'à s'en aller. Les jours étaient comptés, d'ailleurs. Ils disparaîtraient comme les autres, comme ceux qui bordaient la place, où l'échoppe du cordonnier survivait seule des anciens temps. La poutre servait encore aux causeries du soir, mais en face, le long du mur recrépi du cimetière, le « banc des vieux » n'existait plus. Et parfois, on les voyait passer, les pauvres octogénaires dépossédés de leur refuge, appuyés sur leurs cannes, avec des regards d'inutiles regrets vers cette place affectionnée, où ils ne chaufferaient plus leurs membres gourds. Comme les choses, les gens changeaient aussi. Les hommes s'habillaient mieux, portaient des cols de chemise, des cravates, quelques-uns même des vestons. Les maçons italiens, plus nombreux que jamais, étalaient chaque dimanche des ceintures rouges et des cravates écarlates, dont leurs effets de torse accentuaient l'éclat. Derrière les ingénieurs montèrent bientôt des bandes de terrassiers, prêts à faire sauter les rochers, à lancer des ponts sur les précipices, à dévaster les champs pour y placer les rails. Dans les forêts de la commune, on abattait les mélèzes centenaires, les antiques sapins aux troncs dépouillés, aux branches tronquées, où pendillaient des barbes grises de lichen. Ces vétérans tombaient sous la cognée, avec des craquements désespérés, et leurs cadavres descendaient péniblement par les pentes, en broyant les fleurs printanières. Madame Sauge arriva en voiture. Pour la première fois, ses jambes refusèrent de la porter jusqu'au bout du chemin bien connu, le long des lacets familiers. Émue déjà par cet appel de l'âge, quand elle vit ce qu'on avait fait de la place, elle se mit à pleurer à chaudes larmes, et tout en s'appuyant sur l'épaule d'Élise Allée pour descendre du char, elle répétait « Ah, c'est la fin! C'est la fin! Et moi, je vais finir avec le vieux Valanches !» La jolie hôtesse essaya de la consoler. « Mais non, Madame Sauge, il ne faut pas se figurer ces choses-là. Voyez, Valanches est toujours Valanches, et nous restons les mêmes, et vous nous reviendrez comme ça encore bien des années. » Claude Jacquot, qui l'avait amenée, allongeait sa mine attristée en pensant que la vieille dame ne se trompait pas, qu'il y aurait bien des catastrophes dans cette métamorphose, que le moment arrivait où la vie serait dure pour les charretiers de Serviez. Les autres habitués éprouvaient tous la même impression douloureuse. Plantot, qu'on vit à peine, disparut après avoir fait deux courses avec Maurice Combe. Penet, qui se préparait à « faire le grand revers » où Volant avait péri, déclarait qu'après cet exploit, il ne reviendrait jamais à Valenches. « Il est vrai, ajouta-t-il, que depuis que le bouleversement est commencé, je fais ce serment-là chaque année. » Quant à Sergine, il se félicitait de n'avoir acheté aucun des terrains qu'il avait marchandés, qui tous auraient pâti des constructions nouvelles ou du chemin de fer. Un jour même, après avoir querellé Élise Allais, comme si elle eût été coupable de tout ce qui se faisait, il boucla sa valise et partit furieux. Mais ce fut pour remonter la semaine suivante, honteux, repentant, comme un fils qui s'est sottement enfui de la maison paternelle. Et il disait à Penet, « J'ai voulu chercher autre chose, mais où trouver ce qui nous attache ici? Le charme de l'habitude et 10 ans de souvenirs. Quand le tracé du chemin de fer sera établi, j'achèterai mon terrain au-dessous des traversies, pour de bon cette fois. Et l'on pourra bouleverser le pays tant qu'on voudra, j'y reviendrai quand même chaque année. » Au fond, c'est ainsi qu'ils pensaient tous. Ils se trouvaient mal et revenaient pourtant, et ils erraient le long des maisons neuves, pareils à des bannis qui, en rentrant d'un exil trop long, cherchent en vain leurs toits disparus, leurs cheminées éteintes, les vieux arbres, les vieux bancs d'autrefois. Leur petite phalange, au lieu de se disperser, ne perdit que 2 de ses membres. Croissy, qui, ayant achevé son tableau, cherchait ailleurs un sujet nouveau, et Marie Baudoire. Elle s'était mariée, malgré son âge et son envie, avec un veuf dont elle élevait les filles, en sorte que Marthe Le Chêne était seule à courir le long des pentes en broutant des fleurs. La saison s'annonçait très chaude. Une tenace sécheresse menaçait les foins. Jadis, ce danger eut inquiété la vallée, dont les champs parcimonieux fournissent à peine le fourrage indispensable. Mais, cette année-là, les gens commençaient à comprendre que la vraie richesse du pays n'était plus là, et l'on se consolait de la chaleur hâtive en voyant qu'elle amenait au grand hôtel des caravanes d'Anglais. Seuls les plus pauvres, n'ayant rien à attendre du flot des étrangers, s'inquiétaient de leurs vaches, qu'ils ne sauraient comment nourrir en hiver, et qui, pour l'heure, broutaient l'herbe rare dans les pâturages du printemps. Ce souci, d'ailleurs, n'empêchait pas ceux qui les gardaient d'y passer gaiement leur mois de juin, car si l'existence est monotone dans les hautes montagnes, où 3 ou 4 pâtres s'isolent avec un troupeau, elle ne manque pas d'agrément dans ces mayens plus hospitaliers, construits plus près des villages, où montent des familles entières. Pour peu qu'il y ait des filles, et il y en a toujours, on y continue dans la splendeur des moins printaniers les joyeuses séances des veillées de l'hiver, et la jeunesse, tout en travaillant dur, trouve moyen de s'y amuser comme ailleurs. Or, c'est justement ce qui se passait dans le frais vallon que traversent les Pendes, aux Mayens de Belle, qui, à l'automne et au printemps, deviennent un vrai hameau, rempli de jeux, de rires, de babil. Il faut dire que Friskin Jordan s'y était installé avec ses 2 petits frères et son unique vache, et que presque tous les soirs, ses veilleurs allaient l'y trouver. Car la petite flamme qui pétillait toujours au fond de ses yeux gris aurait attiré les garçons jusqu'au sommet du Mont-Blanc. Fritz Boson, rentré depuis peu au village, y montait comme les autres, en cachette. Pourtant, son père, qui ne se dérangeait pas depuis la vente du Florent, le lui avait défendu, en jurant qu'il l'assommerait s'il le prenait en faute. Mais le gaillard n'y tenait pas, tiraillé entre sa grande peur du terrible homme qui le menait comme un aigre malgré ses 20 ans passés et sa grande envie de revoir Friskine. En définitive, c'était toujours celle-là qui l'emportait. Seulement, sa désobéissance lui laissait une inquiétude qu'il ne savait pas bien cacher. Et souvent, Friskine lui disait « Il faut t'en aller, puisque tu as si peur. » En disant cela, elle le regardait d'une certaine façon, et il se serait laissé mettre en pièces plutôt que de quitter la place, d'autant plus qu'il y en avait toujours d'autres là, qui n'auraient pas mieux demandé que de lui voir les talons. Au bout d'un moment, d'ailleurs, il oubliait son père, tout comme s'il n'en avait point eu. Alors, il riait, il racontait des histoires, il chantait des chansons. Puis, quand approchait l'heure du départ, il s'assombrissait de nouveau, et Friskine recommençait à se moquer de lui. Élevé en liberté, sans mère, sans personne pour la morigéner, sans autre leçon de sagesse que celle des voisines et les prêches du curé, elle ne comprenait pas qu'un garçon manquât autant de courage. Au fond, quoiqu'elle affectât d'en rire, elle était piquée et chagrine, parce que Fritz lui plaisait, avec sa drôle de petite moustache rousse et son teint de demoiselle, et qu'elle n'aurait pas mieux demandé que de le trouver plus hardi. Souvent, après l'avoir vu disparaître au bout du sentier qui suit les bords de l'épande, elle s'attristait en roulant toutes sortes de pensées, tellement que des larmes lui venaient aux yeux. Dès que Fritz arrivait, au contraire, son chagrin s'en allait comme une poussière qu'on essuie. Elle ne pensait plus qu'à lui dire des plaisanteries. Et puis, sa tristesse recommençait aussitôt qu'elle ne le voyait plus. Or, un jour, monté au Mayen vers la fin de l'après-midi, Fritz Boson trouva Friskine en train de faire sa soupe en compagnie de son amie Reine, la fille à Balthazar Prélaz. Une jolie fille aussi, celle-là, aussi brune de peau et noire de cheveux que Friskine était blanche et blonde, et cousue de malice. La soupe cuisait dans l'âtre. Les enfants jouaient autour d'un grand baquet de petits laits qu'ils lapaient à la façon des chats. On plaisanta comme d'habitude. Friskine était toute rouge, sa petite flamme au fond de ses yeux pétillait comme du mou dans un verre. Reine riait à pleine bouche. Fritz était un peu plus sérieux. Tout à coup, un des mioches, sans y penser, l'éclaboussa de petit lait. Les deux amis rirent plus fort, et lui, en s'essuyant, demanda à Friskine, pour dire quelque chose, « Qu'est-ce que tu veux en faire de ce petit lait ?» Aussitôt, une de ces idées folles, comme il lui en venait quelquefois, passa par la tête de la jeune fille, qui répondit « Eh, tiens, te mettre dedans !» Fritz s'esclaffa. Elle reprit « Veux-tu parier ?» Avec Reine, je parie que nous pouvons. Essayez, repartit Fritz. Voilà les deux luronnes qui l'empoignent comme un sac de farine. Elles avaient des bras solides qui s'attachaient à lui comme des cordes, d'autant plus que son corps fluet était de bonne prise. Il se débattait en beau diable, plus vigoureux qu'elles ne l'eussent cru, agitant ses membres frêles entre leurs pinces. Mais Reine réussit à s'emparer de ses deux jambes. Elle serrait si fort qu'il ne pouvait plus gigoter, et Friskine lui tenait les deux bras, en sorte qu'au lieu de prendre la chose en plaisanterie, il commençait à les croire tout de bon capables d'exécuter leur projet. Les petits se moquaient de lui, battaient des mains, criaient. La perspective d'être plongé dans le baquet par des filles ne lui semblait pas drôle du tout. D'autant moins qu'il pensait bien que Reine ne se priverait pas de raconter l'histoire à tout venant. Mais, au moment où elle croyait bien le tenir, il réunit ses forces et se dégagea d'une brusque secousse qui repoussa violemment les deux jeunes filles. Reine fit quelques pas en chancelant, puis retrouva son équilibre. Quant à Friskine, elle donna du front contre l'âtre, si malheureusement qu'elle en perdit connaissance et tomba presque dans le feu, en renversant la marmite où bouillait la soupe. Les deux autres se précipitèrent pour la relever. Pendant qu'ils la portaient sur son lit, elle revint à elle, les regarda de ses yeux vagues, dont la petite flamme s'était éteinte, et porta la main à son bras gauche en disant « Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai là ?» Alors elle se rappela toute la scène. « Ah oui, ça n'est rien !» Mais la douleur était si vive que, malgré son courage, des larmes lui vinrent aux yeux. Elle se mordit les lèvres, fit une grimace et tâcha de rire. « Je crois que je me suis un peu brûlée, » fit-elle. Fritz expliqua d'un ton piteux « C'est la soupe. Est-ce qu'elle est par terre ?»« Toute. Mais qu'est-ce que les petits vont manger ?» Ils pleuraient dans un coin, les petits, serrés l'un contre l'autre, effrayés comme des poussins qui ont aperçu le bon oiseau. Friskine leur cria « Taisez-vous, vous voyez bien que je ne suis pas morte !» Elle se remit debout, bravement, en se frottant les yeux comme quand on se réveille trop tard. « Montre ton bras, » dit Reine. « Oui, fais voir, » ajouta Fritz, comme si l'on allait recommencer à rire. Mais quand il vit le pauvre bras, gonflé, tuméfié, sanguinolent, avec des morceaux de chair qui tombaient, quand il le sentit brûlant sous son doigt, il n'eut plus envie de plaisanter. « Ça doit faire rudement mal, » dit-il. « Un peu. » Il regarda Reine en demandant « Qu'est-ce qu'il faut faire ?»« Bah, » dit Friskine, « ça ne sera rien. » Là-dessus, elle alla prendre la burette où elle tenait l'huile de son croisé, en versa quelques gouttes sur un morceau de journal, l'appliqua sur la plaie et dit « Ça fait déjà du bien. » Fritz, l'air penaud d'un maraudeur pincé par le garde champêtre, baissait l'oreille, se faisait doux comme un mouton, mais il ne se consolait pas. Et comme il avait le cœur tout remué, il fut bien content quand Reine rappela que c'était l'heure de rentrer à Valanche. « C'est vrai, » dit Friskine en revenant à sa coquetterie, « sans quoi son père pourrait bien se douter de quelque chose. » Fritz ne lui répondit que par un regard navré. Il se mit en route à côté de Reine, et tout le long de la descente, il ne desserra pas les dents. Il revint aux nouvelles le lendemain, le surlendemain, les jours suivants, déployant pour déjouer la surveillance de son père autant de ruses que celui-ci en mettait à gouverner ses affaires. Friskine lui disait chaque fois « Ça va mieux, ça n'est rien ». Car elle lui savait bon gré de venir si souvent et craignait de le chagriner. Mais une fois, elle avait si mal, elle se sentait si faible, avec la tête brûlante et le cœur qui chavirait, elle se mit à pleurer. « Tu vois bien que tu as plus mal, » lui dit Fritz. Elle essaya de le tromper encore. « Mais non, c'est autre chose. »«
Qu'est-ce que c'est ?»«
Des idées. »« Eh bien, fais voir ton bras. » Elle refusa. Son bras devenait noir, commençait à sentir mauvais, et jamais elle ne l'aurait montré. Fritz devina que le mal s'aggravait. « Il faut aller chez le curé, » dit-il. Friskine refusa du geste. Fritz répéta « Il n'y a pas, il faut y aller. » De nouveau, des larmes brillèrent dans les yeux de la jeune fille. « Je ne peux pas, » dit-elle.
« Pourquoi ?»«
Il faudrait tout lui dire, j'aurais trop honte. »
Fritz haussa les épaules en répondant « On n'a pas fait bien du mal, on s'amusait un peu, voilà tout. »
Elle reprit « Et puis ?»«
Et puis ?»
Il irait peut-être y répéter à ton père. » Cette fois, il n'y avait pas une ombre de malice dans ses yeux, qui semblait demander grâce, ni dans sa voix qui tremblait.
« Qu'est-ce que ça fait ? » dit Fritz, « puisqu'il faut. »
Elle ne résista pas davantage. Toute docile, elle se laissa emmener, après avoir recommandé au petit d'être bien sage en l'attendant. Moitié faiblesse, moitié crainte, ses genoux ployaient le long du chemin. Par moments, elle voyait tout tourner, les mélèzes, les montagnes de l'autre côté de la vallée, les chalets sur les pentes. Pourtant, elle tâchait encore de plaisanter. Elle dit « Je suis comme une chèvre qui s'est cassée la patte et que le berger ramène. » Bien qu'elle voulût le renvoyer, par peur de Frédéric Élie, Fritz eut le courage de traverser tout le village à côté d'elle et ne la quitta que lorsqu'elle eut tiré la sonnette du curé. Si elle n'avait pas senti qu'il la suivait des yeux,
Peut-être qu'elle se serait sauvée, car elle tremblait comme une feuille en suivant la servante le long du vestibule. En voyant le bras de Fiskin, le curé s'écria « Sainte Mère de Dieu, comment t'es-tu fait ça ?» Elle se mit à raconter son histoire, si émue qu'elle bredouillait comme au catéchisme. Mais le curé l'écoutait à peine et ne songeait pas à la gronder. « Quand est-ce que ça t'est arrivé ? » demanda-t-il. « Voilà 6 jours. Pourquoi n'es-tu pas venue plus tôt ?» Elle baissa la tête sans répondre. « Tu n'as pas osé, hein ? Je ne te gronde pas, parce que le bon Dieu s'est chargé de te punir. Mais si tu avais attendu encore 1 jour ou 2, tu entends, c'était trop tard. » Il prit ses instruments, mit un tablier blanc sur sa soutane, retroussa ses manches comme un vrai chirurgien, appela sa servante pour l'aider et se mit à couper et à tailler dans le mal comme dans du beurre. Pâle de douleur, Fiskin serrait les dents pour ne pas crier. Le curé lui dit « Tu as du courage. » Mais elle ne pouvait presque plus se tenir. Sans penser à ce qu'elle disait, ni à la servante qui dressait l'oreille en tendant la cuvette, elle laissait échapper des bouts de phrases. « Si je le tenais, s'il était là, mais ça n'est pas sa faute. Il l'a pas fait exprès. Je crois que je le grifferais. Il est bien gentil. Il vient tous les jours voir comment ça va. Aïe, aïe, ça fait trop mal. » « C'est fini, » dit le curé avec un ouf de soulagement. Il lava la plaie, loignit d'une pommade blanche, enveloppa le bras dans des bandelettes, et avant de renvoyer Fiskin, il lui fit boire un verre de vin d'amigne pour lui rendre des forces. « Est-ce que tu vas remonter là-haut » demanda-t-il. « Bien sûr, monsieur le curé. Tu ferais mieux de te reposer un peu. » « C'est qu'il y a les petits qui sont tout seuls, monsieur le curé. »« Et puis, tu seras sage à présent, hein ?» Fiskin devint rouge comme une framboise et balbutia « Oui, monsieur le curé. » Mais quand elle releva sa paupière, la petite flamme qui pétillait de nouveau dans ses yeux semblait démentir sa promesse. Elle avait fini son vin et se tenait debout avec un air d'oiseau qui ne demande qu'à s'envoler. « Tu peux t'en aller, » dit le curé, « si tu te sens assez forte. » Elle ne se le fit pas dire 2 fois. « Merci bien, merci, monsieur le curé. » Quand elle fut partie, vaillante et crâne, le curé acheva sa demi-bouteille. Car s'il cachait ses émotions comme doit le faire un homme qui veut soulager les maux et les misères du prochain, elle n'en était pas pour cela moins vive. Tout à l'heure, pendant qu'il taillait à grands coups dans ce bras à moitié pourri, il s'était senti tout faible, lui aussi. Il n'avait pas moins besoin que Fiskin de se remonter le cœur. Heureusement que c'était fini. Et en vidant son verre à petites gorgées, il se disait « Ce qui va se passer, je le devine bien. Dans quelque temps d'ici, la Luronne viendra à confesse tout en larmes, parce que ça ne peut pas finir autrement. Alors, il faudra que j'aille parler à Frédéric Ellie. Il sacrera, il jurera, il se démènera comme un diable qu'il est. Mais il faudra bien qu'il donne son consentement, puisque le mal sera fait. Ces jeunesses finissent toujours par où elles auraient dû commencer. Et c'est encore heureux qu'on ne renacle pas devant le Saint-Sacrement du mariage, quand le mal est commis. » Comme il se plongeait ainsi dans ses réflexions, Gaspard Clévoz fit son entrée derrière la gouvernante, aussi pâle que Fiskin tout à l'heure. Il n'était plus le brillant garçon des temps anciens. Les traits tirés par le souci, les yeux inquiets, il prenait cet air gauche, craintif, perplexe, qu'ont ceux auxquels la vie prodigue de dures leçons. En le rencontrant, chacun pouvait se dire « Voilà un gaillard qui n'est pas heureux. » Mais on ne le rencontrait guère, car il ne sortait plus qu'en rasant les murs et ne parlant à personne, sauf à Nantelme Testaz, qui lui donnait des renseignements sur le Colorado. Il s'arrêta sur le seuil, son chapeau à la main, et il dit « C'est par rapport à mon père que je viens vous trouver, monsieur le curé, parce que ça ne va pas. » Le curé lui montra une chaise. « Avance donc, Gaspard, » fit-il. « Alors, tu dis que ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a ?»«
Je ne pourrais pas bien vous expliquer, monsieur le curé. Il y a le cœur qui bat tant qu'il peut vite. Et puis, il ne peut pas ravoir son souffle. Il ne dort plus, il ne mange plus, il ne parle plus. Il reste ainsi penché en avant en faisant « avec un bruit de sifflet dans le corps. J'aimerais bien que vous veniez le voir. »
« Quand tu voudras, mon garçon. Voilà déjà du temps qu'il est malade. »
« Bien sûr, monsieur le curé. Je voulais toujours venir vous chercher, et c'est lui qui ne voulait pas. Il y a déjà des mois qu'il baisse, mais c'est surtout depuis qu'il a vu l'affiche sur l'autel. D'abord, je lui ai fait croire que ça s'arrangerait, et puis quand il a vu que ça ne s'arrangeait pas, quand il a fallu lui dire que la chose était faite, ça a été comme si on lui donnait un grand coup dans l'estomac. Il me regardait et il n'avait pas l'air de comprendre. Et puis il a fait « Eh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» Et puis il a toussé que j'ai cru qu'il allait passer. Après, il s'est un peu remis et ça va, ça vient. On ne sait pas que croire, quoi.
« Eh bien, » fit le curé, « allons le voir tout de suite. »
Les deux hommes sortirent ensemble. Sur la porte de l'hôtel du Florent, ils aperçurent le fils de Rarogne, un beau garçon bien vêtu qui semblait le portrait de son père, et Gaspard serra les poings dans les poches de son veston. Puis ils s'engagèrent dans une des ruelles étroites qui sortent de la place, car les deux Clévoz, maintenant, logeaient dans un racard où Gaspard avait porté leur lit et arrangé une espèce de cheminée pour cuire leur café au lit. En approchant de la misérable grange, il expliqua « Monsieur de Rarogne nous a bien proposé de loger dans l'hôtel jusqu'à ce qu'il y vienne du monde, mais le père n'a jamais voulu. Alors on reste là, en attendant que ça aille mieux. » Ce qui lui restait d'insouciance et d'optimisme perçait dans ses derniers mots, car d'où serait venu le mieux dont il parlait? Leur dette payée, il restait à peine aux Clévoz quelques centaines de francs. Il ne possédait plus un lopin de terre, plus un coin de bois, plus rien que ce racard, où jamais, au temps de leur prospérité, ils n'auraient cru qu'on pût loger des chrétiens. Maintenant, pour gagner son pain, il faudrait que Gaspard travaillât à la journée, comme un ouvrier, tant que vivrait son père. Après, il partirait pour l'Amérique, et peut-être bien qu'il y referait sa fortune. En attendant, il fallait montrer leur misère, et ça lui coûtait. Il devint tout rouge en ouvrant la porte et en disant « Entrez donc, monsieur le curé. » Ratatiné, diminué, réduit, vieil Suisse était assis sur son lit, sa chemise entr'ouverte montrant son cou décharné, d'où saillaient les veines et les muscles. Son souffle difficile soulevait sa poitrine et sifflait entre ses lèvres violettes, recroquevillées sur ses gencives. Le corps penché en avant, dans la poursuite désespérée de la respiration qui fuyait, il s'appuyait sur le bras gauche. Ses yeux vagues, au fond de leurs orbites creusées, regardaient dans le vide, éteints et mornes. Il ne parut ni surpris ni soulagé de voir approcher le curé, qui lui prit la main en disant « Eh bien, ça ne va donc pas ?» Vieille Suisse fixa sur lui ses yeux qui se brouillèrent et prirent une expression lamentable. Sans répondre autrement, il secoua plusieurs fois, de droite à gauche, sa tête qui semblait prête à se casser au bout de son cou maigre. Le curé reprit en lui tâtant le pouls. « Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ?» Le vieux leva sa main droite, noueuse, tordue et brune comme une racine depuis longtemps desséchée, la laissa retomber sur ses draps et finit par dire « C'est le souffle, c'est le cœur, je crois. » Penché sur lui, le curé écouta un instant palpiter, souffler, bruire la pauvre machine usée, au ressort cassé, qui ne marchait plus.
En se relevant, il dit à Gaspard « Je crois que tu ferais bien d'aller chercher le médecin, mon garçon. » Quand le curé demandait le médecin, on savait ce que ça voulait dire. Bien qu'il eût baissé la voix, le vieux l'entendit et se mit à répéter avec un geste de refus obstiné « Non, 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 non. » Gaspard consulta des yeux le curé qui répondit « Il faudrait pourtant bien. » Mais sans instance, avec un regard qui signifiait, clair comme le jour, que le médecin n'y pourrait rien de plus. « Moi, reprit-il, je vais vous essayer des poudres. Ça le soulagera toujours un peu. » Le vieux le laissa partir sans rien dire, en le suivant de son regard terne jusqu'à la porte. Et il ne parla plus jusqu'au soir, où il demanda à Gaspard « Alors, qu'est-ce qu'il a dit le curé? Qu'est-ce qu'il dit que j'ai ?»« Il dit que c'est le cœur, » expliqua Gaspard. « Ah, c'est le cœur, tu crois? Puisque le curé le dit. » Il doutait, le pauvre. Il ne savait pas. À de certains moments, son cœur battait la charge à coups redoublés, comme le tambour à la journée de Sarfas. À d'autres, il se calmait, tranquille comme une petite bête endormie. Pourtant, même en ces moments-là, vieille Suisse ne se sentait guère mieux. Ses membres pesaient des kilos, il pouvait à peine les mouvoir. Et ce qui lui arrivait de meilleur, c'était de sommeiller un peu. Alors, du moins, aucun chagrin ne s'ajoutait à son mal. Il ne voyait plus la misère qui l'entourait. Il pouvait se croire encore chez lui, dans le vieux chalet démoli par ses mains imprudentes, dans la chambre où avait tenu toute sa vie. Quand il s'éveillait, étonné d'être dans son lit, il tâtait ses membres et se demandait « Mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai donc ?» Et il se rappelait à la fois sa maladie, sa ruine, son cœur qui allait recommencer à battre la générale, son maudit souffle après lequel il fallait courir, l'hôtel qu'on venait de vendre, et qu'il n'était plus qu'un pauvre homme, un gueux, comme il appelait autrefois les soldats de M. Barman, et que, s'il guérissait, il ne lui resterait qu'à mendier le long des routes. Vague, sourde, incertaine, comme amortie par les approches du grand silence, ses idées flottaient autour de lui plutôt qu'elles ne le pénétraient, l'enveloppant d'une ombre épaisse, et cette ombre était faite du regret confus des choses de la terre, souvenirs, visions, espérances. De la honte de ne pas laisser derrière soi un peu du bien amassé par le travail, comme un morceau de survie, comme une bribe d'éternité. Et encore d'une immense fatigue, de la fatigue accumulée de 75 ans de labeur, comme si le foin, la paille, le seigle de tous ses voyages eussent ployé ses épaules, comme s'il eût donné dans un effort condensé tous les coups de pioche dont il avait fendu le sol, tous les coups de cognée dont il avait frappé les sapins au cours de sa longue vie. Juillet commençait. Les hôtels regorgeaient déjà, même l'hôtel du Florent, pour lequel la saison s'annonçait bonne, quand Sterny arriva à son tour. Il revenait, ramené par une espèce d'habitude, mais plus encore par une secrète espérance, comme averti que ce petit endroit où son âme troublée avait peu à peu retrouvé la paix exercerait encore une action bienfaisante sur sa destinée. Il revenait, après un hiver mauvais, passé à chercher la saveur des plaisirs anciens dont il ne retrouvait que le dégoût. Il revenait, effrayé d'avoir constaté la mort en lui de l'homme d'autrefois, sans pouvoir encore dégager l'homme nouveau qu'il sentait s'agiter. Forme vaine, entrevue, poursuivie et perdue, image enfuie après un rayonnement. Il revenait, en se rappelant que Madeleine, dont l'an dernier il osait à peine prendre congé, lui avait dit pourtant au revoir, comme les autres années, sans qu'il pût deviner la part d'espoir, de tendresse ou de pardon qui tenait dans cette parole. Il revenait sans rien savoir d'elle, et pourtant rempli d'elle. Tantôt irrité jusqu'à la haine, tantôt doux, craintif, amolli, n'ayant qu'un désir éperdu de larmes et d'adoration. Une fois de plus, en montant de Serviaise, il reconnut, au bord du chemin, les arbres qu'il aimait, les noyers dont les branches s'élancent dans des gestes de passion, les vieux sapins dépouillés, pareils à de grands vieillards chauves, que la vie aurait tenu longtemps ployés sous la même épreuve. Une fois de plus, au dernier contour, il s'arrêta pour contempler le dernier morceau de la plaine prêt à disparaître et le moutonnement des roches polies par les vagues des antiques glaciers. Une fois de plus, en passant devant la cabane à Nantelme, il fut arrêté par le brave petit homme, dont il reçut l'habituel bienvenue. « Eh, bonjour, monsieur Sterny, vous êtes donc de nouveau au milieu de nous ?» Des larmes mouillèrent ses yeux quand il vit pointer à l'horizon la cime de la Dent Rouge qu'incendiait le couchant. Quand le clocher gris de la vieille église sortit du renfoncement où se cachait le village. Il salua le bon François-David, debout devant son hôtel, Joseph Cascaté qui attelait son cheval devant la poste, le curé qui sortait du cimetière, du paisible cimetière où dormait aussi maintenant le cœur généreux de Volant. Devant le chamois, sur le banc vert installé au-dessous du baromètre anéroïde qui promet toujours le beau fixe, il aperçut la figure ridée de Madame Sauge. Elle lui sourit et le salua d'un signe amical, comme si elle l'eût quitté la veille, tandis qu'Élise allait s'avançait vers lui, toujours fraîche, aimable et souriante. « Eh, bonjour, monsieur Sterny !» En lui serrant la main, elle lui glissa, en baissant la voix, ce renseignement. « Si vous voulez votre chambre, monsieur Sterny, il faut vous dépêcher. Je sais qu'il y a des gens qui en ont envie. » L'affaire n'était pas encore conclue, heureusement. Les jumeaux purent donner la préférence à leur ancien client, et la petite scène des autres années se répéta autour de l'arrosoir, car le père jumeux, que 2 années de sobriété avaient rajeuni, revenait à ses habitudes. « On peut bien vous offrir un verre, monsieur Sterny. »« Ah, vous avez recommencé ?» s'écria Julien. « Un petit peu. Avec l'âge, vous comprenez, on se rouille. Il faut bien mettre de l'huile dans la machine. » Il éclata d'un bon gros rire qui secoua toute sa grosse petite personne, sa bedaine et son triple menton. « Et que dit le curé ?»« Le curé, on ne lui demande pas la permission. »« Ça va donc tout à fait bien à présent. »« Le coffre est bon, monsieur Sterny. Et puis tout marche par ici. Il faut voir de quel train. Un vrai plaisir, quoi. » En redevenant fort et jeune, Jumieux s'était rallié à la cause du progrès, tandis que sa femme restait conservatrice et geignait sur la marche des choses. Elle marmonna quelque chose pendant qu'il continua. « Car ça y est maintenant, monsieur Sterny, le chemin de fer, pour de bon cette fois. Les ingénieurs ont fixé leur plan, les ouvriers travaillent déjà. » Peut-être qu'on pourra voir encore, avant de partir, les locomotives passer par là. » La femme grogna. « En attendant, ils vont saccager nos pauvres champs. Ils passent justement sur notre seigle, monsieur Sterny, et il était si beau cette année. » Jumieux cligna de l'œil et se tapa sur les genoux. « Pour ça, c'est vrai, dit-il, le seigle était beau. Aussi, il faudra qu'il le paie. Et puis, plus tard, le chemin de fer nous apportera bien de quoi nous acheter du pain blanc. Mais les femmes, monsieur Sterny, ça ne voit jamais plus loin que le bout de son nez. « Ce que je vois bien, riposta la vieille, c'est qu'on est en train de tout bouleverser par ici, et Dieu sait ce qui en sortira à la fin. » Debout sur son perron, qui dominait les prés, elle montrait d'un large geste la ligne blanchâtre du terrassement commencé. Une fente, à peu près parallèle à la formidable échancrure du passage de la Tause, Une mince blessure faite à la terre couvrait les coups de pioche d'une armée d'ouvriers piqués à travers l'espace. Jumieux n'aimait pas les discussions. Il se garda de répliquer, remplit de nouveau son verre et dit « Ce qui arrivera dans l'avenir, personne ne le sait. À la vôtre, monsieur Sterny. » Des jours passèrent sans amener Madeleine. De gracieuses silhouettes d'étrangères remplissaient le village d'élégances inaccoutumées, en sorte que les vieux habitués, qui gardaient par bravade leurs chemises de flanelle, leurs cordons noués autour du cou, leurs gros souliers cloutés et leurs vêtements de course, semblaient les survivants d'une façon d'âge de pierre. Ils s'isolaient d'ailleurs, restant ensemble pour éviter le contact des couches nouvelles. Groupes mécontents et dépossédés. Et ils échangeaient leurs réflexions mélancoliques, qui, toutes, aboutissaient à ce triste refrain. Décidément, Valanche n'est plus Valanche. Parfois, avec Sergine, compagnon taciturne mais bienveillant et spontané, plus souvent seul, Sterny refit une à une les belles courses aimées des précédentes années. Il grimpa les durs sentiers pierreux qui conduisent dans ces replis de verdure qui sont comme les sourires des Alpes, dans les combes désertes que surplombent les hautes parois rocheuses, sur les cols ou sur les sommets d'où le regard embrasse la gloire des hautes cimes surgissant dans l'entassement des glaciers. Il jouit de ces solitudes, de la beauté de leurs aspects, de la pureté de leur silence, de la fraîcheur de leur air. Il jouit aussi de cette gymnastique de la marche, saine et forte, qui vide le corps de ses inutiles pensées et lui prépare de bons sommeils de bête inconsciente et lassée. Ces fatigues salutaires atténuèrent un peu la déception qu'aggravait la fuite des jours, car maintenant il ne se demandait plus, en des éclairs d'espérance, « Viendra-t-elle ?» Il se disait avec une cruelle certitude « Elle ne viendra pas ». Et il s'avouait les causes de cette retraite. Ayant lu dans son cœur, de son clair regard de vierge aimante et fière, Madeleine en avait aperçu la ruine, deviné le néant. Devant ce cœur à ressusciter, à refaire, à épurer, à ennoblir, elle reculait comme devant une tâche indigne d'elle, ou vaine, et passait son chemin. En sorte qu'après avoir entrevu le salut en elle, dans un effort utile dont seule elle pouvait lui donner le courage, dans un départ, peut-être, avec elle, vers l'inconnu des pays nouveaux où le travail refait l'âme simple et tranquille, il ne lui restait plus qu'à retomber, abandonnée, dans les bas-fonds de sa précédente vie. Ce fut en traînant de tels sentiments que Julien vit s'approcher ce dimanche du 1er août, dont on parlait déjà depuis le début de la saison, que Valanche se préparait à célébrer avec toute la Suisse. Car ce jour-là, 6 siècles auparavant, dans une autre vallée des Alpes, des pâtres et des paysans avaient prêté le serment solennel de secouer la tyrannie qui pesait sur eux pour vivre libre. Et leur serment créait un noyau auxquels vinrent s'agglomérer d'autres morceaux de montagne, des miettes de pays tombés des nations voisines, qui, peu à peu, formèrent aussi une nation. Or, à 6 siècles de distance, l'âme de cette nation, jusqu'alors fidèle à ses origines, remontait pieusement à ses pères des temps anciens. Que de convulsions, depuis cette époque lointaine, avaient secoué cette terre! Que de sang charrié par ces fleuves au fond de leurs vallées! Que de luttes entre ces cantons, unis maintenant! Que tant de haines avaient divisé! Que de batailles plus glorieuses où le danger commun rapprochait les alliés infidèles! Que de fois le vaisseau de la patrie avait failli sombrer dans les tempêtes qui bouleversaient le monde! Pourtant, il flottait encore, avec ses 22 bannières aux simples emblèmes. Le taureau du Ry, l'ours de Berne, le curé de Glaris, les 13 étoiles du Valais. Il flottait vers l'inconnu de ses destinées, porté sur les vagues des orages, défendu par la force des choses et par celle de sa volonté. L'ombre saine de son passé vaillant planait encore sur lui, dans la douteuse lumière des temps nouveaux. Et voici qu'en un jour solennel, il voulait revivre par le souvenir ces heures grandes et sombres de son aurore, où sa conscience était née dans l'effort d'affirmer ses droits, ces heures qu'enveloppe la brume des légendes et dont une flamme de poésie illumine d'incertitude. Ce jour-là, ces 3 races, ces 22 cantons, ces paysans, ces montagnards, ces bourgeois et ces ouvriers, ces protestants et ces catholiques, ces radicaux et ces conservateurs, tous ces éléments, enfin, quels qu'ils fussent, tous ces fils et tous ces atomes allaient se confondre dans la commune pensée de joie, de courage, de solidarité qu'exprime la devise des vieux confédérés. Ce jour-là, dans la montagne comme dans les villes, dans les casernes comme dans les derniers couvents, dans les plus humbles hameaux et par-delà les étroites frontières du pays, les cœurs suisses, partout où il y en a, frémiraient ensemble aux souvenirs évoqués de toute leur histoire. Dès la veille de cette grande journée, des feux brillèrent dans la montagne, car c'est une belle coutume, pendant les nuits solennelles, d'allumer des bûchers sur les hauteurs. Dans les temps anciens, quand on redoutait les attaques d'ennemis toujours menaçants, c'était un signal d'alarme. En éclatant dans le ciel, les feux appelaient les pères et les époux à s'unir pour la défense du foyer, et l'on s'armait de la hallebarde ou de l'arbalète. Aujourd'hui, quand ils brillent encore, ils ne parlent plus qu'un langage de bienveillance et de paix. Ils sont un salut qu'on s'envoie de village à village, une pensée amicale qui s'en va vers les pâtres isolés dans les hautes Alpes, ou qui vient d'eux, un signe d'accord joyeux, d'espoir commun, de foi et de fraternité. Les feux dans les montagnes rappellent que, perdus dans l'immensité des choses, enveloppés dans les mystères de la nature et dans les ténèbres de la nuit, les hommes veillent avec leurs pensées, que leurs âmes brillent comme la flamme et montent comme elles, qu'elles sont aussi des points lumineux dans l'espace, des étoiles allumées par des mains inconnues pour répandre la chaleur, pour semer la lumière, pour se répondre entre elles, comme les notes graves d'un écho. Épars sur les roches qui moutonnent autour du village, des groupes de paysans, de touristes, d'étrangers, les regardaient jaillir, ces feux qui semblaient des étoiles, pendant que dans le ciel s'allumaient aussi, tremblotants et timides, les myriades des soleils épars dans l'infini. Des lueurs pareilles, dont les unes étaient des bûchers et les autres des mondes, apparaissaient à tous les points de l'horizon. Il y en eut bientôt sur tous les sentiers invisibles du ciel, sur toutes les montagnes dont l'obscurité confondait les lignes, au sommet de la Pernelle, le long de la Voie lactée, sur les flancs de la Matte, à mi-côté du sexe de Belle. Elle nageait dans le vide, elle tâchait l'ombre épaisse, elle vacillait, s'éteignait, éclatait de nouveau, elle valsait comme des feux follets, elle mourait comme des yeux qui se ferment. Parmi les groupes, on les cherchait, on les montrait, on les comptait, on les suivait. « Encore une ! Regardez, là ! Est-ce une flamme ? Est-ce une étoile ? On ne sait pas. » La distance des conditions, des habits, des langues, s'effaçaient dans un sentiment de fraternité attendrie. Tous communiaient ensemble avec ces inconnus dispersés à travers l'espace, dont les vacillantes lumières leur adressaient des signes affectueux. Ils étaient bons, ils étaient généreux. Leurs cœurs débordaient d'une indéfinissable émotion. Plus ému qu'aucun autre, étant plus sensible, Sterny sortait de sa propre vie. Fils des ancêtres lointains dont ces feux célébraient la mémoire, frère des braves gens qui les allumaient dans les ténèbres. lui que d'obscures aspirations tourmentaient depuis si longtemps, il ne connaissait pas encore un besoin si éperdu de tendresse et de bonté, un tel désir de se dépouiller, de s'oublier, de se donner. À chaque flamme nouvelle qui frappait ses yeux, il entendait plus clair la voix intérieure qui criait « Je veux être !» Mais cette voix attendait en vain la réponse. L'autre voix qui aurait dit « Me voici !» Et comme un feu très brillant éclatait très loin, de l'autre côté du Rhône, comme la voix sonnait un appel de fanfare, il eut soudain la sensation d'une approche inattendue. Il se retourna. Madeleine était auprès de lui. Le paysage s'effaça. Les figures s'effacèrent. Il murmura « Vous ? Vous ici ?» Madeleine répondit, tout bas « Oui, c'est moi. Je suis revenue. » Mépenet se mit à tirer des fusées qui soulevèrent des bravos. Sergine, habile aux imitations, lança des cris de coq et des beuglements de taureaux, que roulèrent, grossirent, multiplièrent les échos cachés au fond des gorges de la Tause. Des rires éclatèrent, troublant la solennité de la nuit. D'ailleurs, l'heure avançait. Quelques feux s'éteignirent, engloutis par l'obscurité. Les femmes se plaignirent des souffles d'air frais qui frissonnaient sur leurs châles. Quelqu'un dit « Il faut rentrer ». On alluma des lanternes vénitiennes pour revenir par le sentier qui ramène au village, à travers les prés. Sergine cria « Sterny ! Sterny, où donc êtes-vous ? » Julien dut répondre « Je suis là !» Et la bande des touristes s'ordonna, descendit parmi des cris, des rires, des bruits de fête, accompagnée à distance par le groupe plus grave des montagnards, qui rentraient aussi, de leurs pas allongés, en observant les plongeons des lanternes multicolores. Une voix demanda « Et la musique ?» Une autre voix répondit aussitôt en entonnant « Roulez tambour pour couvrir la frontière !» Et l'on chanta jusqu'au bout, sur son air de marche, l'hymne belliqueux dont le doux philosophe Amiel composa les paroles et la musique en un jour d'enthousiasme, au temps où le roi de Prusse menaçait un rameau de l'arbre fédéral. Puis ce fut le beau chant d'orgueil où le Suisse réclame le fleuve souverain qui descend de ses glaciers et dont ses vallées sont le premier berceau. Il est à nous, le Rhin. Enfin, quand le monôme déboucha sur la place, un rythme de pas redoublé précipitait les vers alertes de Rambert, entraînant comme une Marseillaise des grimpeurs. « Salut, glacier sublime, vous qui touchez aux cieux !» Le chant se prolongea sur la place, où galopèrent des bandes folles sous les yeux des montagnards. Le vin pétilla dans les verres, le vin joyeux, le vin clair, le vin généreux du Valais, dont chaque goutte se change en étoile. Les montagnards, à leur tour, s'égayèrent autour des tables de bois, dans les pintes. Puis, peu à peu, les bruits cessèrent, les fenêtres s'éteignirent, la nuit sereine enveloppa, dans sa fraîcheur silencieuse, le village qui s'endormit de son bon sommeil sain, sous la garde des cimes prochaines. Rentré dans son chalet, Sterny laissa ses yeux errer longtemps dans le noir du paysage invisible, tandis que la Tause grondait sourdement au fond de ses gorges, et que des souffles d'air parfumés, d'une fraîcheur divine, parcouraient la vallée. Son âme débordait d'une joie, qui, dans la paix ambiante, se faisait très douce et très recueillie. Son cœur et ses lèvres murmuraient, dans un invincible besoin de jeter des mots au silence, « Elle m'aime ! Elle m'aime ! Elle pardonne !» Et la vie ouvrait devant lui des splendeurs ignorées. Il s'élargissait, il se multipliait pour l'absorber toute. Il voulait aimer, penser, agir, avec des forces décuplées. Le passé disparaissait, comme une île de fièvre dont s'éloigne un vaisseau. Vainqueur, enfin, l'homme nouveau surgissait parmi ces ruines déblayées. dans un demi-rêve inconscient, il prolongeait le charme de cette heure délicieuse où il touchait au bonheur sans l'avoir encore saisi. Il pensa « Demain, 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 toute la vie sera claire, tout l'avenir lumineux. Demain, les dernières traces du passé auront disparu. Demain. » Et la fièvre de son attente précipitait la fuite de la belle nuit, et la fête de son cœur se confondant dans la fête interrompue, son avenir se noyait dans l'évocation du passé qui l'exaltait. La fête recommença dès le point du jour, au bruit des pétards, au carillon des cloches. Bien avant leur heure accoutumée, les touristes et les étrangers des hôtels fourmillaient sur la place, curieux et gais, tandis que les montagnards débouchaient des ruelles étroites pour se réunir devant l'échoppe du cordonnier. Des femmes en chapeaux plissés, leurs missels à la main, se dirigeaient vers l'église, à petits pas, en causant entre elles. On vit passer, bras dessus, bras dessous, Reine Prélaz, la Moricaude, et Frisquine Jordan, toute palotte, ses petits yeux malins devenus très doux, tandis que derrière les deux jeunes filles pointait le museau futé du Fritz à Boson, qui ne se cachait plus. Bientôt les soldats arrivèrent dans leur uniforme gros bleu, leur fourniment astiqué de frais, fusil sur l'épaule et sac au dos, comme s'ils allaient entrer en campagne. Un roulement de tambour. C'était Nantelme, la figure toute petite sous son képi qui maniait les baguettes. Les appela devant l'hôtel du Florent, où ils se formèrent en troupe, sous les ordres de Joseph Cascaté, qui portait les galons de sergent. Le gaillard commandait comme un capitaine. À droite, alignement, front, présenter armes, porter armes. Même il fit faire à ses hommes quelques mouvements inutiles, pour le plaisir de montrer son importance. Il les promena deux ou trois fois autour de la place, les conduisit devant le grand hôtel, les ramena au bout du village pour les arrêter encore, selon la consigne reçue, dans le cimetière, devant l'église, car il devait rester là pendant le service pour le scander par des feux de peloton, comme si le dieu de paix tenait beaucoup au bruit des poudres, au simulacre de guerre. À mesure que l'heure avançait, les groupes devenaient plus nombreux, le fourmillement plus épais. Ceux de tous les plans, de tous les jours, de toutes les crêtes, arrivaient pour la cérémonie. Ceux des hameaux juchés sur les pentes de la Matte, de l'autre côté de la Tause ou le long du Trécou, ceux des traversies, tous, sans qu'un seul manquât au rendez-vous. Ils restaient un moment à se regarder les uns les autres, pendant que la cloche ébranlait le clocher ou frétillait le petit bouquet de foin mûr dont le vent emportait les graines. Puis ils entraient dans l'église, déjà pleine comme un œuf, de leurs pas lents, avec des mouvements hésitants, des regards circonspects. Madeleine et Julien s'étaient rendus ensemble sur le rocher de Croissy pour prendre leur part de l'office, car ce dimanche-là, comme aux dimanches ordinaires, le culte commençait par la bénédiction des tombes. Déjà le curé, en camail rouge, sortait de l'église, suivi du sacristain portant la croix. Il s'avançait dans le cimetière, qui retrouvait un peu de son charme ancien, grâce à de nouvelles fleurs, à de nouvelles tombes, à de nouveaux morts. Agenouillés autour des croix, on reconnaissait la belle tête de Maurice Combes, que le dernier hiver avait blanchie, la mine futée de petit gris, la frimousse éveillée de Frisquine, toute confite dans une dévotion inhabituelle. La jolie Élise allait avec ses deux jumelles. Le curé passait, s'arrêtait un instant pour esquisser le geste qui pardonne, la grande croix s'inclinait, les mains des parents agitaient le goupillon, et peut-être que leurs pensées, en ce jour qui ne ressemblait pas aux autres, allaient plus loin que ces humbles tombes. Peut-être parce qu'elle remontait la chaîne des générations, jusqu'au temps où les ancêtres guerroyaient entre eux ou contre l'étranger, pour laisser à leurs descendants plus de paix et plus de liberté, jusqu'aux temps héroïques dont on ne sait plus que de confuses histoires. Cette fois, la bénédiction ne tombait pas seulement sur des pères, sur des maris, sur des enfants enlevés avant l'âge. Les prières ne se bornaient pas à recommander à la clémence des saints leurs humbles âmes isolées. C'était le passé tout entier dont on sanctifiait la mémoire. C'était l'âme de la patrie que l'on confiait à Dieu. Quand le curé, ayant achevé sa tournée, rentra dans l'église, Joseph Cascaté commanda les premières décharges. Les fusils partirent. Les échos des gorges de la Tause répétèrent en le prolongeant leur crépitement grêle, tandis que les fidèles, arrivés en retard et ne trouvant plus de place, se massaient sous le porche, devant le portail ouvert. Un des derniers fut Rarogne, en redingote, en chapeau haut de forme, qui se fraya passage à coups de coude, en répondant d'un signe au salut qu'il accueillait. Julien murmura « Que va-t-il demander au bon Dieu, celui-là » Une nouvelle décharge ébranla l'air. Puis les retardataires, restés en dehors, s'agenouillèrent, comme si un coup de vent sorti de l'église les eût inclinés. Et, toute la vie étant condensée autour de l'autel, un grand silence s'épandit dans la vallée. Les soldats restaient immobiles, l'arme aux pieds, maintenus en strict alignement par les regards de Joseph Cascaté. D'instant en instant, la cloche s'agitait dans sa cage, la prière montée dans l'espace ouvert. Assis l'un près de l'autre, les yeux errants sur le spectacle, Madeleine et Julien se sentaient gonflés de pensées qu'ils n'osaient exprimer. Ils étaient heureux, et leur bonheur n'était point celui de deux amants candides qui s'abandonnent à la joie d'aimer. Il s'y mêlait une tristesse infinie, de sourdes réflexions douloureuses, tout un travail de doute et d'inquiétude. Un poids indéfinissable pesait sur eux, un poids très lourd qu'ils brûlaient de déplacer. Mais quelle parole en aurait raison ? Nécessaire entre eux, l'explication deviendrait plus difficile à mesure qu'ils la retarderaient. Au moment de rompre le silence où leurs âmes s'entendaient, ils s'arrêtaient dans l'effroi de ce qu'ils allaient dire, dans l'espoir de pouvoir se taire. Est-ce que, caressés par cette atmosphère de joie et de pardon, frôlés par le souffle divin qui sortait de l'église, enveloppés dans le silence amical de ce paysage où depuis 4 années ils égrenaient leurs meilleurs rêves, est-ce qu'ils ne pouvaient pas chasser loin d'eux les nuages amassés dans les lointains de leur vie, l'orage ancien dont les grondements les inquiétaient encore? Et puis chacun se sentait coupable envers l'autre. Chacun voulait laisser parler sa tendresse. Chacun voulait écarter du visage aimé l'ombre mauvaise et toujours menaçante. À la fin, d'une voix très basse, Madeleine dit « Est-ce que vous me pardonnez ?»«
Vous pardonnez ?» répondit Julien. « Moi ? Et quoi donc, mon Dieu ?»
Lentement, d'un accent très tendre, une larme au bord de ses beaux cils, elle dit « De vous avoir laissé dans la tristesse, de vous avoir laissé partir l'an dernier, sans vous dire le mot que vous attendiez, de vous avoir laissé souffrir quand je pouvais vous consoler, d'avoir été une mauvaise amie, une sœur cruelle qui ne comprenait pas. » Émue jusqu'au fond de l'âme par cette charité bienfaisante qui cherchait à s'accuser pour avoir le pardon plus facile, Julien prit la main de Madeleine et la baisa. «
Vous pardonnez cela ? » dit-il.
« Oui, c'est vrai, vous m'avez fait douter de votre bonté, de votre pitié, de votre indulgence. J'ai douté de notre avenir, j'ai perdu courage. Mais à présent, tous ces soucis s'envolent. Il ne me semble plus que la rançon légère de mon bonheur. Et je pense à d'autres doutes, à ceux que j'ai semés dans votre cœur. » C'était là la blessure à laquelle il tremblait de toucher, car il sentait bien qu'une fois découverte, leur sort dépendait de leurs paroles, comme leurs paroles de leur cœur, dont elles allaient montrer les plus intimes profondeurs.
Madeleine ne répondit pas tout de suite. Sa main dans la main de Julien, elle réfléchissait et cherchait l'expression de confuse pensée. « Il ne faut pas m'en vouloir, dit-elle, de n'avoir pas su vous dire ce que j'aurais dû l'an dernier. J'ai eu pitié de vous tout de suite, car j'ai compris que vous aviez souffert. Mais autrement que je me l'étais d'abord imaginé. Seulement cela m'entraînait si loin de tout ce que je sais. J'avais un certain idéal de la vie, de l'amour. Je croyais... je ne savais pas. « Ah, mon Dieu !» s'écria Julien. « Oubliez ce que je puis vous avoir appris. Oubliez ces horribles choses. Gardez votre idéal. Je veux vous le refaire, car il est la seule vérité. Ce qui est faux, voyez-vous, ce qui est mensonge, c'est tout le reste. Ce que j'ai vécu, ce que vous savez de moi. Mon passé, ma vie antérieure, oh, croyez-moi, rien de tout cela ne subsiste. J'ai mis 4 ans à me renouveler, mais il n'y a plus trace en moi de ce que je fus jadis. Vous avez chassé ce fantôme, le fantôme que j'ai été, qui avait cru vivre. Vous, oui, vous. Et aussi, cette simple vie où je me suis mêlée, ce pays dont j'ai pénétré l'âme, ces braves gens qui m'ont fait comprendre la sainteté de l'effort, de la peine et du travail. Des écailles me sont tombées des yeux. Et c'est à présent seulement que je sais ce que c'est que d'aimer. Oh, croyez-le, je vous en prie. Croyez qu'il n'y a plus rien dans mon cœur qui ne soit pour vous. Croyez que nos deux vies, en s'unissant, vont fleurir et qu'aucune ombre du passé ne planera sur l'avenir. » Elle dit gravement « Je le crois. » Et elle levait sur lui ses beaux yeux, rayonnant d'amour et de foi, épanouis dans le bonheur. Le prône devait être fini, car la cloche s'ébranla dans sa cage. Joseph Cascaté commanda une nouvelle salve. On vit sortir Rarogne, qui, jugeant qu'il avait fait au bon Dieu une part assez large de son temps précieux, bousculait de nouveau les fidèles serrés sous le porche. Comme il s'arrêtait ensuite un instant pour regarder les militaires, Joseph eut une bonne idée. Il commanda « Présentez les armes !» La petite troupe rendit les honneurs à Rarogne, comme s'il eût été le seigneur du pays. Flatté dans son amour-propre, il toucha le bord de son chapeau, sourit, et s'approchant du sergent en clignant de l'œil, « Venez donc vous rafraîchir au grand hôtel avec vos hommes quand vous aurez fini, » dit-il. « Il y aura quelques bonnes bouteilles. Elles vous consoleront d'avoir manqué le prêche, qui était fameux, je vous en réponds. » Là-dessus, il fit claquer sa langue avec une expression gourmande, comme s'il venait de déguster du vin et qu'il voulût dire « Il est très bon !» Privé du prône pour le plaisir de tirer des salves au bon Dieu, les soldats écoutèrent un autre discours, un peu plus tard, quand on fut sorti de l'église. Rangés sur la place, ils formaient avec les enfants de l'école, le conseil, les confréries, un cercle autour duquel la foule se pressait. Au milieu, sur une table, le curé parlait, avec de beaux gestes et d'une belle voix. Il évoqua quelques-uns des souvenirs glorieux de l'histoire nationale, ces exemples qu'il ne faut jamais oublier, malgré les changements du monde. Quelques-unes de ces grandes figures au valet, énergiques et violentes dans la lutte comme dans la foi. Il rappela qu'au cours des événements qu'avait traversé ce petit pays qui semble un îlot de montagnes, les prêtres avaient toujours défendu son indépendance et guidé ses fils à l'heure du péril. Il parla de l'amour de Dieu et de la patrie qui peuvent se concilier dans les mêmes cœurs, dont les doubles flammes ne font qu'une seule lumière pour éclairer les hommes et les conduire à leur destinée. Ces paroles tombaient dans un silence attentif, et quand il eut fini, des acclamations éclatèrent de tous les côtés de la foule. Comme il faisait un de ses derniers gestes, le curé aperçut, caché dans l'angle de la ruelle qui sépare les deux hôtels, la figure pâle de Gaspard. Le malheureux l'appelait du regard.
Lorsqu'il se vit remarqué, il fit de la main un signe suppliant et désespéré. Le curé répondit d'un petit clignement d'yeux, et aussitôt son discours fini, il manœuvra de manière à traverser la foule pour joindre le pauvre garçon. « Ah, monsieur le curé, pardonnez-moi de vous déranger ainsi !» dit Gaspard, qui avait les yeux remplis de larmes et ne semblait pas seulement s'apercevoir qu'il était mal vêtu parmi les gens en costume de fête. « Mais il y a mon père qui vous appelle. Il dit qu'il voit bien que c'est la fin qui approche. Et il souffle, que ça fait mal à voir. »« Dépêchons-nous, » dit le curé. En entrant dans le racard, il comprit tout de suite que le vieux Clévose ne se trompait pas. Assis sur son lit, secoué par ses étouffements, le malheureux avait déjà ce masque sinistre que l'agonie semble poser sur les visages des mourants. Il leva sur son visiteur des yeux presque éteints, qui imploraient du secours, de l'air, des forces. Mais il ne put que balbutier des paroles inintelligibles. Alors le curé, traversant de nouveau le tumulte de la place, se hâta d'aller chercher des poudres pour le soulager et de lui donner l'extrême onction. Soit à cause des poudres, soit à cause de l'huile sainte, vieil Suisse éprouva un léger mieux. Il put parler de nouveau, lentement, d'une voix très faible, et il dit, en serrant la main du curé, « J'en ai bien assez vu dans ma vie. J'ai assez souffert. J'ai eu assez de misère. Si c'est la fin, cette fois, tant mieux. Je n'ai pas peur, oh non, la mort n'a qu'à venir. » « Je peux bien m'en aller. » Il tourna les yeux vers Gaspard. Ce fut comme si ses soucis revenaient sur lui et brouillaient sa cervelle, car il se mit à radoter à moitié, mêlant les choses vraies et les choses fausses, les vérités et les imaginations. « Il faudra travailler pour racheter le chalet. Pas l'hôtel, non, non, pas l'hôtel, le chalet. » L'hôtel, tant pis pour l'hôtel. Faut pas vouloir trop de choses. Et la vigne en laitron, tu ne la vendras jamais, entends-tu? Je ne veux pas, jamais. Ni les champs, au moins. Oh, les champs, les champs. Les champs, vois-tu, ça reste toujours là. Ça ne bouge pas. Ça donne toujours de l'herbe pour les vaches. Des pommes de terre, du blé. Gaspard courbait la tête, car ses paroles tombaient durement sur lui. La vigne, les champs, le chalet, ces biens qui restent, qui nourrissent les générations, que les pères lèguent à leurs fils pour que ceux-ci les agrandissent et les améliorent. Ils étaient devenus l'hôtel du Florent. Une bâtisse à spéculation qui les avait ruinés, qui en enrichissait d'autres, qui passerait ainsi de main en main, avec des fortunes diverses, comme un billet de loterie. La vigne, les champs, le chalet, son ambition les avait détruits en quelques mois. Alors que depuis si longtemps, il bravait l'incendie, les maladies, les avalanches, les inondations. Et c'était comme s'ils se fussent fondus et dissipés, puisque le père mourait dans la misère. Et puisqu'aussitôt qu'il lui aurait fermé les yeux, il s'en irait lui-même courir le monde, comme un vagabond, sans savoir s'il reviendrait jamais. Des échos de la fête entraient dans le racard. Le crépitement des salves que Joseph Cascaté commandait sur la place, les sons assourdis d'une musique de cuivre, le bruit vague que fait la foule en remuant et en piétinant. De temps en temps, des gens entr'ouvraient la porte pour demander des nouvelles, car le curé avait dit en passant « Vieil Suisse va mourir ». Et bien que les Clévose, depuis leur ruine, ne parlassent plus à personne, cette nouvelle, tombant au milieu de la fête, émouvait le village. Des vieux, des notables, des amis, demandèrent à voir encore une fois le pauvre Henri David pour lui dire adieu. Avec un mélange de compassion et de curiosité, ils examinaient furtivement la misère de sa dernière retraite, les restes du mobilier, le désordre de la pièce obscure où l'air manquait, Puis, ils ramenaient leurs yeux sur le corps douloureux qui râlait, tressaillait, étouffait, divaguait avec des mouvements lourds de masse presque inertes. Ils s'approchaient sur la pointe des pieds, penchaient leurs visages durs et graves sur sa figure tellement ratatinée, aux traits si déformés qu'ils la reconnaissaient à peine, et s'éloignaient en chuchotant de ces paroles sourdes, comme on n'en prononce qu'au chevet des mourants. Aucun signe extérieur n'indiqua qu'Henri David les vit ou les comprit. Il regarda Maurice Combes, mais d'un regard muet et mort. Il pressa la grosse main du père Jumieux. Quand Balthazar s'approcha de lui, il fit un geste que personne ne comprit. Le curé lui-même, bien qu'accoutumé au langage des moribonds, ne devina pas les mots que mâchonnait le rumement de ses lèvres, et il restait à son chevet en roulant toutes sortes d'idées. Oublieux de la fête qui devenait toujours plus bruyante à mesure que la journée avançait. Vers les 4 heures, pendant qu'on servait le banquet officiel dans la grande salle de l'hôtel de la Dent Grise, un banquet pour lequel le bon François David avait mis les petits plats dans les grands, le père Clévaux se réveilla de sa torpeur pour entrer en agonie. Cette fois, la mort était là. Son souffle passait comme un frisson dans l'atmosphère étouffante au vieux racard. Son approche solennisait la misère des choses. Quoiqu'il ne la craignît point, comme il l'avait dit tout à l'heure, quoiqu'il fût rassasié de jours et de chagrins, vieille Suisse se raidit contre sa main sèche, dans un réveil inconscient de l'instinct tenace qui se cabre au bord du grand abîme. Un moment, il retrouva des forces, comme si son corps, dévoré par le mal, en eût pourtant recelé une provision inépuisable. La lutte recommença, la défense suprême du vaincu qui repousse encore le genou pressé sur sa poitrine. D'affreuses crises le reprirent ainsi. Il fut tordu et secoué comme un arbre déraciné que l'ouragan s'acharne à fouetter, comme un blessé sur lequel passe une charge furieuse. De nouveau, son cœur battit comme la cloche, qui justement se remettait à sonner à toute volée au haut du clocher. De nouveau, il haleta dans des efforts désespérés pour aspirer l'air que ses poumons ne pouvaient plus contenir. La bouche béante, les yeux hors de la tête, le visage en sueur, lancé en avant par de brusques secousses qui le rejetaient sur ses oreilles ou crispant ses bras décharnés au cou de Gaspard. Après s'être tu très longtemps, il se remettait à parler. Il lâchait des mots, toujours les mêmes, qu'il répétait constamment. Et ces mots semblaient comme un étonnement de toute cette souffrance qui l'écrasait, le hachait, le broyait. « Mais qu'est-ce que j'ai donc ? Qu'est-ce que j'ai donc ?» Gaspard répondait « Père, père, mon pauvre père !» Tandis que le curé lui mettait un flacon sous le nez, on tâchait d'introduire une cuillerée de potion entre ses lèvres violettes. Bientôt les mots diminuèrent, plus faibles, presque inarticulés, n'exprimant plus la question qui flottait encore dans l'esprit obscurci. « Mais qu'est-ce que... qu'est-ce que... qu'est-ce... » La violence des crises s'apaisa. À 2 ou 3 reprises, la main du moribond, cette main vaillante qui avait remué tant de charges, pauvre main noueuse, déformée par les blessures du travail, toute faible maintenant, toute pâle, s'agita dans le vide comme pour repousser l'invisible ennemi, et les lèvres presque noires murmuraient encore « mais ». Puis le geste cessa, la voix s'éteignit, ce fut de nouveau le calme, l'assoupissement, le silence, jusqu'au moment où le dernier hoquet l'emporta. Quand le curé traversa pour rentrer à la cure, la place où la fête battait son plein dans la nuit commençante, un spectacle singulier attira son attention. Une sorte de lanterne magique, imaginée par les ingénieurs,
qui projetait des ombres sur un grand drap blanc suspendu au balcon de l'hôtel de la Dent Grise. Or, le tableau qui s'exposait en ce moment représentait une vue panoramique de la vallée de la Tause, non pas telle qu'on la voyait encore, mais telle qu'elle serait demain, avec plusieurs hôtels juchés sur ses pentes à la place de leurs paquets de mazots, avec des ponts jetés sur ses abîmes, avec ses champs coupés par la ligne de chemin de fer, parallèle à l'échancrure ouverte du torrent, avec un long train filant à toute vapeur comme s'il venait de sortir du village. Un murmure de satisfaction saluait cette image prophétique. Puis, quelqu'un eut l'idée d'imiter le sifflet de la locomotive, et des applaudissements éclatèrent parmi la foule, des rires de contentement, des plaisanteries. « Ça y est, cette fois! Ça y est, tout bon! Elle siffle déjà !» Ému encore de l'autre spectacle qu'il quittait à peine, le curé, au lieu de partager la joie commune, sentit que son cœur se remplissait de tristesse. « Il y a des choses qui meurent, » pensa-t-il, « et qui ne reviendront plus. Avec les vieux qui disparaissent, s'en vont les anciennes mœurs, les anciennes idées, tous les vestiges d'un passé qui vécut longtemps et dont la ruine est rapide. Il y a un monde qui finit tous les jours, un monde dont on pourrait compter sur les doigts les derniers survivants. Que vaudra celui qui naît à la place, si différent ? Agité, convulsif, hardi, ambitieux. Sera-t-il meilleur? Sera-t-il plus heureux? C'est le secret des aurores futures. Nos pauvres regards bornés ne le pénètrent pas. Quand nous les promenons autour de nous sur le travail confus du monde nouveau qui se forme, hélas, tout ce que nous voyons, ce sont les souffrances, les deuils, les misères, de ce douloureux enfantement.